Alors bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour la première soirée donc d'un cycle de rencontres lié à l'exposition Claire Bretéché qui a lieu actuellement à la bibliothèque. Donc, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, je vous invite à y aller. Elle est ouverte après cette rencontre jusqu'à 22h et tous les jours, sauf le mardi. Et donc, je vous rappelle également que cette soirée va être suivie d'une rencontre dédicace avec les trois auteurs qui sont sur ce plateau ce soir. Voilà, donc à la fin de la rencontre, je vous demanderai de sortir de la salle pour si vous voulez discuter. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire également que, donc pour ceux que ça intéresse, lundi prochain, nous allons accueillir un plateau sur la représentation de l'adolescence dans la bande dessinée et de l'adolescente surtout, donc en clin d'œil à Agrippine, voilà, dans le cinéma, dans la bande dessinée. Ensuite, une rencontre sur la bande dessinée dans les revues. Et voilà, il y aura bien d'autres rencontres. Alors, je laisse la parole à Mathieu Rémy qui va présenter les intervenantes de ce soir. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre consacrée à l'héritage de Claire Bretéché. Très rapidement, je présente les intervenantes qui sont donc autour de cette table. Aude Picot, qui est donc dessinatrice de bande dessinée, Fabienne Dumont, qui est historienne de l'art, et Catherine Meurice, qui est dessinatrice de bande dessinée aussi. Je présenterai chacune des intervenantes un tout petit peu plus longuement au moment des questions. Je ne voudrais pas perdre de vue la thématique de cette rencontre qui est donc l'héritage de Claire Bretéché et rebondir en introduction sur la très très belle exposition qu'effectivement vous pouvez visiter jusqu'à 22h à la BPI et qui est vraiment absolument prodigieuse et qui donne à voir le travail de Claire Bretéché et qui permet justement de réfléchir à cet héritage qu'elle a laissé autant graphiquement que dans sa peinture des mœurs qui lui étaient contemporaines. Et je voulais juste rappeler quelques petites choses qui permettront justement de jalonner cette analyse de son héritage pour des choses que peut-être vous avez vues dans l'expo mais que vraiment, je voulais juste replacer un petit peu en fond, notamment dire que Claire Bretéché est elle-même une héritière de la bande dessinée franco-belge, qu'elle est très influencée par André Franquin. C'est dit par Jean-Pierre Mercier dans l'introduction à l'exposition, qu'elle travaille donc pour Spirou, qu'elle travaille avec René Goscinny, dans Tintin, dans Record, qu'elle invente différents personnages, dont le personnage de Cellulite pour Pilote. Et ce qui me semblait aussi important, puisque je vais y revenir avec certaines de nos intervenantes, c'est le fait qu'elle ait été révolutionnaire, dans une époque elle-même révolutionnaire pour la bande dessinée, que donc son héritage, il est important à un double titre, j'ai l'impression, c'est-à-dire à la fois parce que c'est une sorte de prouesse graphique en acte qui se prouve à chacune de ses publications, mais c'est aussi un moment où la bande dessinée connaît une sorte de mue. Alors il faudrait l'expliquer, peut-être Fabienne Dumont pourra nous en dire un peu plus, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là dans la bande dessinée. On passe d'une bande dessinée vu comme un univers pour les enfants à un univers qui est plus adulte, entre guillemets. Là aussi, il faudra nuancer. Et Claire Bretéché, elle a été très importante dans les différents supports dont je vous ai parlé, mais elle a été importante aussi en tant qu'innovatrice, puisqu'elle a, en 1972, était l'une des fondatrices, avec Marcel Gottlieb et Nikita Mandrika, de L'Écho des Savanes, qui était donc une revue très importante dans le domaine de la bande dessinée liée à la contre-culture, notamment. Alors, je vais essayer, évidemment, d'aller un petit peu plus rapidement. L'héritage de Claire Bretéché, nos invités nous en diront plus dans quelques secondes, me semble vraiment à la hauteur de cette singularité qu'elle a imposée au monde de la bande dessinée, avec de nombreux nombreux auteurs qui la revendiquent, mais c'est un héritage qui peut se placer au niveau graphique, mais aussi au niveau de du langage et de l'invention sociologique. On l'a tous vu à quel point les Bretéché pouvaient inventer des manières de se parler, des expressions qui sont rentrées dans le marché commun des qualificatifs. Et je voulais, pour justement parler de son œuvre et d'un livre qui m'a beaucoup impressionné et dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Claire Bretéché, Dessins et peintures, qui est publié au Chêne. Je vous incite à aller le consulter pour voir justement l'étendue du spectre graphique qui est recouvert par le talent de Claire Bretéché, et aussi un certain nombre de thématiques qui organisent le livre et qui montrent aussi quels ont été les éléments les plus importants à ses yeux, les copines, les enfants, le travail. Et on trouve dans ce livre très très intéressant, et j'enchaînerai tout de suite après sur la présentation de Fabienne Dumont, on trouve un exergue de René Pétillon qui me semble-t-il résume assez bien le travail accompli par Claire Bretéché. Un scepticisme tranquille, des coups de pompe existentiels, de l'angoisse tempérée par un grand sens du relatif, un romantisme tenu en laisse, des tentations lyriques vite réfrénées, une délicate balance entre les petits ridicules et grandes déprimes, de la fraternité, sororité on peut, un jeu entre la pose et le vrai, de l'affection sans manière, de l'étonnement que ce soit comme ça, des agacements, de la beauté, de la sincérité, de l'honnêteté, de la liberté d'esprit, du comique dans la sensualité et réciproquement, de la pure poilade, du dessin à tomber. Alors Fabienne Dumont, vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain, professeur à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Vous êtes aussi critique d'art et vous êtes entre autres l'auteur d'un livre intitulé « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 » aux presses universitaires de Rennes. Claire Bretéché apparaît à de nombreuses reprises dans cet ouvrage consacré, comme son titre l'indique, au lien entre pratique artistique et militantisme féministe. Vous notez ainsi qu'elle a été l'auteur de nombreuses affiches en soutien au mouvement féministe. On les verra tout de suite. Je vais en montrer tout de suite une qui est très belle, je trouve, pour le MLAC, donc le mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Vous notez donc qu'elle a été l'auteur de nombreuses affiches, notamment celle qui a accompagné aussi le premier festival international de films de femmes. On le verra, on peut le mettre tout de suite, festival Musidora. Le Festival international de films de femmes, donc en 1973 à l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais alors dans votre livre, vous ne manquez pas soulever la question de l'ambiguïté de cette solidarité avec le militantisme féministe. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette ambiguïté qu'on ressent tous à la lecture des frustrés et d'autres œuvres de Claire Bretéché?
Alors oui, effectivement, puisque ce que je signale aussi dans le livre, c'est qu'elle participe par des affiches qu'on ne connaît pas beaucoup, le MLAC et Musidora. Alors Musidora, c'est un festival de films de femmes qui a lieu en 1974. C'est le premier festival de films de femmes qui ensuite va devenir le festival international de films de femmes qu'on connaît à Créteil. À partir du milieu des années 80, ça a lieu tous les ans à Créteil. Et donc elle réalise cette affiche que je trouve assez réussie, où elle va représenter une femme encagoulée avec des talons hauts et une espèce de mitraillette qui se termine par une caméra, par un corps de caméra. Et ça avait beaucoup fait scandale à l'époque. J'ai retrouvé dans un ouvrage qui a été publié par un collectif qui s'appelle Des femmes de Musidora, et elle disait qu'en fait elle trouvait cette image choquante, agressive, voire méprisante. Et ce type de réaction face aux planches que produit Bretéché, ça va la poursuivre en fait tout le temps, puisque effectivement elle se situe toujours dans quelque chose d'assez ambigu, en même temps un soutien au mouvement et aux luttes des femmes, et de l'autre côté quelque chose de très ironique où elle va pointer les tiraillements, la manière dont les femmes sont aussi à cheval entre les injonctions que la société leur fait et puis leur envie de liberté et d'autres choses, hein, donc le confort et puis en même temps l'envie d'aller vers autre chose qui permet plus de liberté, plus d'ouvrir plus de portes. Et le MLAC, par exemple, donc l'autre affiche, elle est aussi, je trouve, particulièrement réussie, puisque sur l'affiche, on voit bien des choses qui se retrouvent dans toutes les caricatures et dans toutes les images produites par les féministes. Ce trio qui bloque l'entrée de l'hôpital, enfin qui sont assez ridicules vu l'ampleur du mouvement et de la contestation en face, ce sont toujours les trois représentants de trois ordres patriarcaux. Donc il y a en général le médecin, quelqu'un qui représente la justice, et le troisième qui représente soit un gendarme, soit un policier. Et en face, on a, alors là c'est assez différent de ce qu'on a d'habitude, on n'a pas des femmes joyeuses et enlevées avec des fleurs partout, mais on a des figures plutôt patibulaires. Il y en a une qui a un pavé, on sent qu'elle est prête à le jeter. Il y en a une qui remonte ses manches, donc on sent qu'elle est prête à en découdre. Il y en a une qui est en train de tricoter. Alors ça, c'est lié à la thématique, le mouvement de liberté de l'avortement et de la contraception. Donc on a toujours, dans l'imaginaire, c'était l'idée que les avortements clandestins se faisaient avec des aiguilles à tricoter. Donc voilà, un rappel aussi de ces faits plutôt horribles. Et puis il y en a une qui tient un panneau mortuaire où il est inscrit dur Alex, sed Lex. Donc dur est la loi, mais telle est la loi. Et quand on sait que des milliers de femmes mouraient tous les jours, des femmes mouraient des suites, des conséquences d'avortements clandestins, voilà, c'est assez aussi. On comprend le ton un peu dur. Et à côté de ça, donc, Claire Bretécher, elle va aussi mettre dans les frustrés notamment toute une série de bandes où elle montre les ambivalences des femmes qui ne savent pas si elles veulent avorter, pas avorter, si elles doivent suivre les injonctions du pape, pas les injonctions du pape. Alors je crois que j'avais mis une...
catéchisme.
Non, c'est plutôt... Tota Molière. Voilà, on ne les voit pas forcément bien en entier, mais voilà, vous pourrez aller les regarder dans les albums qui ont été publiés.
Et comment le mouvement féministe a pris justement ces évocations des combats féministes par
Alors moi, j'ai, à part des réactions par rapport à ces affiches, il n'y a pas forcément beaucoup de réactions qui sont trouvables 40 ans plus tard. Mais on peut imaginer, par exemple, il y a une bande sur les combats de Gisèle Halimi où elle met en scène les prises de pouvoir au sein du mouvement féministe par rapport notamment à d'autres classes sociales, par rapport à une femme issue de la classe sociale ouvrière qui est utilisée dans la planche de Bretécher. Donc je peux imaginer qu'effectivement là les réactions pouvaient être assez houleuses, parce que quand il y avait un combat aussi difficile, le décalage humoristique mis en scène par Bretécher, je pense, devait susciter quelque chose, pas forcément toujours de l'adhésion. Il y avait certainement des femmes qui devaient pouvoir prendre la distance et rire, mais je pense qu'il y avait aussi certainement des réactions virulentes, comme quand elle se moque d'un salon des femmes artistes qui l'invite en disant qu'elle ne participera pas à un salon de femmes artistes puisque il n'y a pas de salon de femmes d'artistes chiens. Donc elle ne voit pas pourquoi elle irait dans un salon d'artistes femmes.
J'ai relevé la citation exacte. Mmh. Elle répond ceci à donc ce salon en 75. L'art n'a pas de sexe, madame, et je me refuse à toute manifestation à caractère injurieusement discriminatoire. Je serais un chien que je vous dirais la même chose en ce qui concerne ce salon des chiens peintres et sculpteurs. 180 francs. Ceci dit, je souhaite quand même qu'il ait un grand succès. Alors c'est là où l'ambiguïté est sensible, et je reste amicalement vôtre. Et elle dit à peu près la même chose dans l'émission qu'on peut voir dans l'exposition. Elle répond à Bernard Pivot, ou non, elle répond à une intervieweuse qui lui dit alors qu'est-ce que ça vous fait d'être une artiste femme, etc. Et elle dit bon, on peint avec sa main, on dessine avec sa main, on dessine pas avec ses organes sexués. Donc voilà, il y a bien des artistes de la bouche et du pied, mais il n'y a pas encore des artistes d'autres choses.
Et elle le dit aussi dans l'année de la femme que j'ai apporté aussi, ouais. Qui doit être une des planches. Voilà. Et de même, il y a toujours cette ambiguïté chez Claire Bretécher, d'en même temps soutenir. Et de l'autre côté, je pense qu'elle soutient, comme beaucoup de femmes artistes, et toujours, je pense, c'est des questions toujours valables. En même temps, elle est bien consciente des discrimination, donc elle soutient les luttes, et de l'autre côté, elle n'a pas envie d'être assimilée à quelque chose du féminin ou d'un univers qui ne serait pas déconstruit et qui la laisserait toujours affiliée à ses anciennes structures. Donc il y a cette situation qui n'est jamais facile à vivre, d'être en même temps dedans et dehors et de vouloir que ça bouge. Et ça, il me semble que c'est...
Ça fait partie de son héritage.
Voilà, ça fait partie de quelque chose d'assez juste qu'elle pointe aussi dans la société.
Alors pour l'héritage graphique, nous avons à nos côtés Catherine Meurice et Aude Picot. Catherine Meurice, vous êtes dessinatrice de presse, auteure de bande dessinée. Vous collaborez à de nombreux titres de presse, dont Le Nouvel Observateur, comme Claire Brodéché, Libération, Télérama, Charlie Hebdo, tout en travaillant pour de nombreux titres de la presse jeunesse. Alors, je cite juste votre dernier ouvrage publié, si je ne me trompe pas, qui est Moderne Olympia, et qui a été le résultat d'une coédition entre les éditions Futuropolis et le musée d'Orsay, qui a été placé en sélection officielle du Festival d'Angoulême 2015. Alors, j'ai envie de vous poser une question que je reposerai à Aude Picot. C'est, vous avez eu l'occasion de rencontrer Claire Brodéché pour l'ouvrage Drôle de femme, qui était écrit par Julie Birman. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'évaluer l'influence que Claire Brodéché avait eue sur votre travail graphique et votre travail de mise en scène de la société contemporaine, à cette occasion-là particulièrement ?
Non, pas à cette occasion-là, parce qu'en 2009, c'est en 2009 que j'ai rencontré Claire Brodéché, donc pour faire cet album avec Julie Birman, et en 2009, mon premier album de BD, Mes Hommes de Lettres, datait de 2008, donc je commençais un peu, j'avais surtout fait de la presse avant, et voilà, donc en 2009, non, je connaissais bien sûr le travail de Brodéché, mais je pouvais pas du tout dire, moi je savais pas où j'en étais par rapport à elle, quoi, et c'est peut-être pas plus mal. Disons que mes influences étaient autres. J'ai toujours été plutôt influencée par les illustrateurs comme Sampé, Quentin Bleck, Tommy Ungerer, Beuville, donc des gens qui ne font absolument pas de bande dessinée. Moi, c'est vraiment ce qui m'a nourrie. Alors, il y a aussi bien sûr les dessinateurs de presse, Cabu, Wolinski, avec qui j'ai travaillé, ou d'autres, Rezer, bien sûr. Mais je crois que j'ai toujours fait attention à ne pas chercher les influences dans la bande dessinée, en fait, parce que la BD est très codée, même là on parle de virtuose, hein, mais ça reste quand même un art codé, et je crois que pour essayer de trouver sa voie dans la BD, il faut pas regarder les codes précédents, il faut essayer d'aller voir ailleurs. C'est pour ça que j'allais voir chez les illustrateurs qui, eux, pensent l'image en entier, qui vont raconter une histoire dans une seule image. Je trouvais cet enseignement intéressant. C'est pour ça que je savais pas où me situer quand j'ai rencontré Claire, mais c'est venu après. Je pourrais le détailler après si vous voulez, mais non, c'est-à-dire que quand on la rencontre, on savoure ce moment, et elle donne aucune leçon dans la vie comme dans ses albums, mais les leçons on en tire quand même quand on la croise, quoi. Donc elle a une attitude qui en impose. Elle est à la fois extrêmement, elle fait pas du tout la gueule comme on peut le croire. On a l'impression que elle a une moue magnifique. On a l'impression qu'elle fait tout le temps la gueule. C'est pas vrai. Elle sourit. C'est une femme qui sourit. Et elle est encore plus magnifique quand elle sourit, mais. Et elle ressemble quand même à ses BD, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est laconique, elle est claire, elle s'embarrasse pas de, elle va à l'essentiel, et ça c'est une très bonne école aussi, ouais. Donc c'est plutôt en rencontrant Brodéché que je me suis mise beaucoup à regarder son travail, et j'ai eu cette chance en la rencontrant elle a ouvert une porte, elle a levé un peu le voile sur sa vie privée aussi, parce que ce livre Drôle de femme, c'était un livre de portraits de femmes drôles, pionnières dans le domaine de l'humour. On a Sylvie Joly, Dominique Lavanant, Anémone, etc., des comédiennes pour la plupart, et pour parler de Lavanant, on était passé par Brodéché. Elles sont très bonnes copines, en fait. Donc,
il y a des images dans le très beau livre, dans le dessin et peinture.
Et dans l'expo aussi, il y a une série de photos où Lavanant et Brodéché essayent des fringues. Et c'est hilarant. Et donc voilà, et Claire nous racontait un peu sans trop parler d'elle, parce qu'elle déteste ça et elle parle pas beaucoup de sa vie privée, mais c'était intéressant de passer quand même par ça. Voilà, elle a une façon de parler des gens qu'elle aime qui est extrêmement intéressante, et de toute façon, elle a un œil, donc on le voit dans ses BD. Donc quand elle parle des gens qu'elle déteste, les curés, je sais pas quoi, qu'on a vu tout à l'heure, ou les gens qu'elle aime, elle est toujours dans la finesse. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ouais.
Aude Picot, je vais vous poser exactement la même question, mais je vais vous présenter un petit peu avant. Vous êtes dessinatrice et auteure de bande dessinée. Vous avez publié depuis 2005 de nombreux ouvrages aux éditions Varum, L'Association, Les Requins Marteaux. On vous connaît pour une série qui s'appelle Moi Je, mais aussi pour Papa, et plus récemment pour un livre qui s'appelle Conteste, dans l'excellente collection BDQ des Requins Marteaux. Je conseille non seulement votre titre, mais toute la collection qui est très bonne. Alors, votre chronique L'ère du rien dans Libération semble se glisser dans le droit fil de l'héritage de Claire Bretéché, puisqu'elle narre les petits ennuis que rencontrent au quotidien des personnages assez proches sociologiquement des personnages des frustrés dans les années 80, ou même des personnages dans les années 70, pardon, ou même des personnages de salade de saison avant les frustrés. Quelle est l'influence que vous ressentez, s'il y en a une, de la part justement de Claire Bretéché? Et pendant que vous répondez, je vais montrer quelques strips de l'ère du rien.
Ça marche le micro ? Oui, ça marche.
Ça marche très bien.
En fait, la commande de l'ère du rien pour Libération, c'était particulier parce que je pense qu'eux voulaient une sorte de... Pas sous Bretéché, mais enfin, c'était les frustrés qui étaient leur exemple. Donc moi, je me suis un peu... Je suis rentrée dans ce moule-là. Évidemment, avec les frustrés en tête, je connais... Enfin, Agrippine, c'est différent, je connais un peu moins, mais les frustrés, je les avais beaucoup lus. Beaucoup feuilleté, donc c'est vrai qu'après, bon, moi je le fais comme je le fais. Je trouve que Bretéché est absolument, enfin, elle est géniale. Moi, je me sens pas du tout au même niveau de lucidité et d'intelligence. Elle se moquait des intellectuels. Moi, je suis pas entourée d'intellectuels, donc je synthétisais un peu ce que je pouvais croiser autour de moi, donc c'est pas, moi j'arrive pas vraiment à comparer, ça me semble pas du tout la même chose, mais l'intention en tout cas du journal, il me semble que l'intention était celle-ci, donc forcément il y a une ambiance quoi, après l'influence, l'héritage général, moi, je souhaitais pas spécialement faire de bande dessinée. Donc, quand je lisais de la bande dessinée jeune, je cherchais pas, je focalisais pas spécialement sur tel ou tel auteur. En revanche, avec le temps, je me rends compte a posteriori qu'il y en a certains qui m'ont plus marqué que d'autres. Et effectivement, entre autres, Bretéché, qui a un ton, une façon de mettre les choses en scène. C'est vrai que Catherine parlait de code et elle est hors code. Elle a inventé son, elle fait les choses comme elle le... par exemple, il y a dans ses mises en... on parlera peut-être de dessin plus tard, mais...
On peut en parler maintenant. Il faut en parler maintenant.
Ouais, mais dans ses mises en page, elle n'utilise pas de bulles. Elle écrit juste le texte et on comprend très bien quel personnage parle. Enfin, ça fonctionne très, très bien. Après aussi, elle décalque ses cases. Donc, ça peut être le même mouvement avec juste une jambe qui change d'emplacement. Et c'est très rythmé. Vraiment, elle a une mécanique du strip qui est assez prodigieuse. Quoi, et vraiment... Moi, évidemment, ça marque quoi. Après aussi le vivant de son dessin et en fait, on en parlait avec Catherine avant d'arriver. Visiblement, elle crayonnait pas. Moi, je me suis pas penchée sur la technique de Claire Bretéché, mais elle faisait pas crayonner. Elle lâchait son dessin tout de suite et ce qui donne une énergie qui est vraiment très particulière.
Elle travaillait sur calque énormément. Enfin, elle lâchait pas le dessin tout de suite sur le papier. Elle travaillait. Énormément, j'ai l'impression qu'elle travaille plus que nous. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, j'ai clairement l'impression qu'elle travaille plus que moi. Et on voit le résultat. Elle travaille sur calque. Elle fait les esquisses directement à la plume, ce qu'on ne fait pas nous, en tout cas. Pour ma part, je fais un petit crayonné en dessous, mais après, ou peut-être que nos techniques se rejoignent, c'est que moi, je fais une esquisse très basique pour garder la spontanéité du trait à la plume ensuite. Et peut-être que toi aussi, j'imagine, je pense, je sais pas, enfin, en tout cas, la technique de Bretéché, elle est, qui est donc de, pour expliquer un petit peu, ça, c'est notre jargon de dessinateur, mais elle fait des essais à la plume sur calque, elle essaie de trouver la meilleure posture, là, et ensuite, elle va travailler sur table lumineuse, c'est-à-dire qu'elle met un papier sur le calque et dessine en transparence pour avoir la meilleure position, etc. Ça, quand, l'illustrateur Quentin Bleck le fait, d'autres illustrateurs le font. Et c'est une famille de dessinateurs aux traits jetés comme ça qui essaie de chercher la spontanéité, une spontanéité qui est extrêmement précieuse. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime chez ces gens-là. C'est ce que j'adore chez Bretéché. C'est vraiment la sincérité, la spontanéité et une immense générosité voilà, qui est pour nous, lecteurs, et pour nous, dessinatrices, un cadeau. Quoi. C'est formidable.
Et en ajout, elle fait visiblement la même chose avec le texte aussi, parce que c'est très travaillé dans l'exposition. On voit effectivement toutes les planches que moi, comme je ne suis pas dessinatrice, je trouvais ça passionnant de voir tout ce travail effectivement de calque. Et en même temps, elle fait exactement la même chose avec les mots pour chercher effectivement quel type de dans les mots effectivement qui n'ont plus de contours. Et ça, c'est effectivement son apport de mettre à égalité le dessin et le texte. Et le texte, il est travaillé, mais ciselé aussi. Quand on lit, simplement lire comme ça a été fait pour France Culture, quand on entend simplement le texte, c'est absolument, on sent que c'est pas du hasard, c'est vraiment un vrai travail d'écriture aussi, en plus du travail effectivement des gestes.
C'est ce qui la passionne le plus, le texte, elle le dit dans l'expo, on peut l'entendre dans une des vidéos, elle dit qu'elle adore chercher les synonymes, les mots, on sent que c'est quelqu'un qui doit lire énormément. Enfin, d'ailleurs, je me souviens quand on s'était vu la première rencontre avec elle, on avait parlé littérature, elle m'avait conseillé des bouquins, si on avait parlé de Franquin, de Beuville, de Cabu, mais surtout de bouquins, et on sent ça effectivement. Après, elle dit qu'elle adore le chercher le texte et que le dessin est une souffrance absolue. On le voit dans ses autoportraits. Quand on voit certaines planches, on a l'impression qu'elle doit, elle doit se marrer quand même. Voilà.
Voilà comment elle se voit.
Elle se voit après avoir fait une planche ou 20 planches, je sais pas. Mais quand on voit certaines planches d'Agrippine, il y a une Aude de Dizet, parfois le personnage change juste une jambe, etc. Et je pense qu'il y a un plaisir là-dedans, il y a un plaisir à dessiner ça. Sinon.
Il y a beaucoup d'autoportraits qui la montrent au travail, comme là, effectivement. Souvent, les autoportraits qu'elle a fait d'elle-même sont des autoportraits au travail. Et puis, effectivement, il y a dans ce fameux livre Dessins et peintures, quelque chose qui prouve aussi qu'elle est absolument géniale dans le trait d'esprit. C'est toutes les petites chapitres qu'elle a écrits pour présenter les thématiques, les copines, la famille, les hommes, etc. Et elle est à chaque fois absolument hilarante. Ouais. Mais du coup, pour l'air du rien, est-ce que si on demande par exemple à quelqu'un de rentrer dans un moule en ayant cette idée de commande, voilà, faites quelque chose qui soit les frustrés, comment on essaie d'adapter, de s'adapter, notamment pour... qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les frustrés pour essayer de fabriquer les frustrés des années 2010.
Bon, ils m'ont pas explicitement demandé des choses comme ça, mais c'est moi qui l'ai interprété comme ça. Je pensais que c'était il me semble que c'était leur référence parce qu'ils voulaient que ce soit une femme, ils voulaient que ce soit. Ils ont utilisé le mot sociétal que je connaissais pas. Et après il y a une. Il y a une contrainte qui impose un peu ces codes, quoi. Moi, on me demandait un strip, donc c'était un strip, c'est une bande. Là, il y en avait deux, donc j'avais quoi, 6 ou 8 cases. Là, je faisais 6 cases. Enfin, en gros, je fais pas de cases, mais donc c'est très court. Il faut décrire une situation avec un début, une chute. Il faut que ce soit drôle, il faut que le texte soit lisible, donc on peut pas en mettre trop. Enfin, c'est quand même Bretéché dans Les Frustrés, elle faisait une pleine page, elle avait beaucoup plus de temps pour développer la situation. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver ces solutions techniques, en fait, de début, fin, chute, pouf, pif, enfin. Donc je partais d'une situation qui me semblait intéressante.
Mais alors. Je précise ma question. Cette situation, moi j'ai l'impression que Bretéché, contrairement à ce que vous disiez, n'était pas entourée de. Elle était surtout dans une forme d'amitié, un peu tellement. Elle parle beaucoup des copines dans ce livre dont je parlais tout à l'heure. Et elle allait chercher apparemment les situations dans les discussions incessantes qu'elle avait avec ses amis. Et est-ce que ce n'est pas ça finalement l'influence ou l'héritage majeur qu'elle a laissé ? C'est-à-dire cette espèce de faire confiance à la vie quotidienne et à ce qu'on y trouve ?
Ah oui, oui. Oui. Absolument. Et je suis en train de réfléchir, effectivement, je me dis, alors, qu'est-ce que j'ai pu lire qui était un peu comme ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça ? Peut-être ? Je sais pas. Catherine, tu sais. Non, il me semble peut-être qu'elle est la seule, la première à avoir fait ce genre de chronique comme ça, du quotidien, conversation sortie de la cuisine, ou saut du lit, ou je sais pas, ou enfin, ou.
Enfin, il me semble. Après, ouais. Ouais, je crois bien. En tout cas, femme dessinatrice, ouais, c'est la première. Mais tu disais, enfin, Aude disait tout à l'heure qu'elle, elle avait le Bretéché dans, avec sa page dans l'Obs, avait le temps de développer son strip. Mais je crois que surtout, elle avait l'espace. C'était juste une page plus grande, mais le temps, c'était un rythme hebdomadaire. C'est un rythme extrêmement soutenu.
Oui, et non, moi, je toujours... enfin, oui, je parle de enfin c'était visuel hein, je parle enfin parce que là je,
oui, oui,
c'est,
mais
c'est
je
la
rebondis,
moitié
mais bien
c'est,
sûr,
c'est,
j'ai bien compris attends, je suis de mauvaise foi je rebondis évidemment moi je suis toujours subjuguée par le justement par tout ce qu'elle peut nous raconter en une seule page et tout ce qu'elle peut dire tout ce qu'elle peut écrire elle a le temps et la place de le faire. Et je ne retrouve pas ça, en tout cas son propos, sa maturité, le niveau littéraire de son écriture, de son langage, l'inventivité. Je trouve qu'elle est unique et on ne retrouve pas ça. Alors on est là pour parler d'héritage, je ne retrouve pas ça dans nos travaux et dans le travail des générations, enfin de la génération dessinateur d'aujourd'hui. Voilà, moi je ne retrouve pas ça. Après. Tant mieux, ça fait que Bretéché restera unique, c'est très bien. Mais je ne sais pas si c'est que l'époque a changé ou si nos inspirations sont différentes, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on est plus léger. Enfin, nous, dessinateurs d'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que là, je me flagelle un peu. Mais...
si je peux me permettre, un point commun que je vois entre ce que fait Claire Bretéché, ce que vous faites, Aude Picot, ce que vous faites, Catherine Meurice, et j'ai une petite illustration, c'est qu'il y a une sorte d'autorisation à parler de soi, à laisser des personnages s'auto-analyser à l'infini. Et j'ai l'impression que c'est le point commun que je vois entre L'ère du rien, Scène de la vie hormonale, qui est donc la série que vous faites dans Charlie Hebdo et qui... Et j'ai l'impression, alors j'ai relevé quelques dessins, quelques strips, mais que cette autorisation, c'est ce en quoi je trouve elle est révolutionnaire aussi au plan du discours, c'est qu'elle a autorisé cette mise en scène de personnages qui sont sans cesse en train de s'auto-analyser, de discuter incessamment sur des concepts qui sont effectivement des intellectuels, mais souvent un peu des intellectuels un peu de pacotille. Et donc, je retrouve ça chez vous. Je retrouve à la fois le souci du quotidien et en même temps le souci de s'autoriser pour raconter des histoires et les dessiner, à parler de choses qui sont de l'ordre de la vie psychologique, de la vie intime, en considérant que ça peut être tout aussi intéressant que des rétrofusées dans l'espace intersidéral.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé, et on n'a jamais autant parlé de soi, surtout aujourd'hui. Là, je vais faire ma vieille conne, mais à l'ère des réseaux sociaux, etc. Bref. Mais je continue de penser que Bretéché l'a fait avec un brio, voilà, qui est vraiment qui est une sorte de monument, qui est un grand classique, enfin un classique toujours vivant, vivace, actuel. Enfin, c'est voilà, donc voilà.
Et peut-être je vais ajouter par rapport à ça qu'effectivement elle le fait avec brio, mais je pense qu'elle est nourrie aussi par un vrai regard politique aussi sur la société, même si elle ne va pas parler directement de politique, elle ne fait pas des dessins de presse sur l'actualité
politique. C'est là où elle
politique.
Était maligne.
Mais, voilà, mais elle en parle autrement, c'est-à-dire qu'elle va parler effectivement de tous les mouvements sociaux, de tout ce qui se travaille intellectuellement par un décalage et toujours par rapport à effectivement des choses du quotidien, des petites scénettes, mais qui disent énormément et surtout quand on les regarde avec le recul, c'est, enfin, moi je trouve ça absolument passionnant de voir tout ce qu'elle a pu capter de
oui,
ses, de tout
très
ce
impressionnant. Elle a vu, elle a une vision oblique de tout, oui, de la politique également, sans jamais avoir fait de dessin de presse. D'ailleurs, j'avais posé la question quand je l'avais rencontrée et ça la gonflait absolument. Notamment parce qu'à l'époque, elle avait toqué à la porte de Charlie ou d'Arakiri, je ne sais plus. Et elle avait été reçue d'abord par Fred, très gentil. Bon, elle le dit dans l'expo d'ailleurs, une vidéo
ouais.
Où il a dit un truc audio.
Il y a un truc audio qui le dit.
Ouais. Où elle dit qu'elle adorait tous ces gens d'Arakiri, de Charlie individuellement, mais en groupe c'était vraiment, on se croyait dans un truc de sous-off.
Oui, c'est ça.
C'était la caserne.
La caserne.
Et c'est sûr, je veux bien la croire parce que Choron, etc. Bon, et elle est tombée sur Cavana, qui voulait pas de ses dessins parce que ses dessins étaient trop empruntés à Ronald Searle. Elle avait pompait trop Ronald Searle. Bon, c'est plutôt pas mal comme influence, mais aussi parce que Cavanaugh lui avait dit un truc du genre « soulève mes couilles, il y a de l'or en dessous », etc. Et elle avait tourné les talons, elle a claqué la porte et dit « mais je vais jamais bosser avec cette bande de tocards ». Et j'avais médité ça parce que moi, j'ai frappé à la porte de Charlie et ah, j'étais restée, quoi. Enfin, bon. Je peux te dire, elle a eu le courage de dire merde à ces mecs qui étaient quand même assez machos. Bon, ça a changé depuis, mais... Voilà, donc elle a eu l'intelligence de ne pas faire du dessin politique et c'est ce qui fait que je pense que ses planches sont beaucoup plus pérennes qu'un dessin de presse de la même époque, quoi.
Mais c'est précisément la question que je voulais vous poser. Est-ce que, en tant que dessinatrice de presse, un peu assujettie aux fluctuations de l'actualité, vous vous êtes servie de...
Je lui demande.
Vous êtes servie de l'héritage de Bretéché pour essayer de voir les choses un peu plus en profondeur, justement pour les scènes de la vie hormonale, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas chez elle une sorte de pas de côté qui effectivement est assez littéraire? Il y a quelque chose chez elle de... On sent une grande culture, de toute façon, mais une sorte de pas de côté qui lui permet justement, à un moment donné, de regarder les choses avec un décalage et qui fait que, par exemple, une planche des frustrés sur Glucksmann peut être encore actuelle. Alors, d'autant plus depuis quelques semaines, mais elle peut avoir une actualité sur, justement, les structures que la société trimballe, comme ça. Est-ce que vous, ça vous a servi à analyser les choses en profondeur?
Oui, surtout cette année qui était particulière. Et vous parliez d'un pas de côté. C'est une expression qui vient de GB, le dessinateur GB, qui faisait partie de Charlie aussi, d'Harakiri, de Charlie Hebdo, qui est mort en 2004. Et j'ai toujours gardé cette phrase en tête, faire un pas de côté tout le temps. Je trouve que c'est très utile quand on fait du dessin de presse et du dessin d'humour, quand on cherche le décalage et quand on essaie de ne pas rentrer dans les moules, dans les cases. Moi je suis rentrée à Charlie en 2005 et le moule était là, le moule de Charlie était là et je suis quand même rentrée dedans, mais j'ai fait attention toujours à essayer de faire un petit pas de côté. Cette année, ça a été plus particulier, bien sûr. Après l'attentat contre Charlie, j'ai plus réussi à faire du dessin de presse. C'était plus possible. Enfin, du dessin politique, je ne pouvais plus sans les autres à côté de moi. Et du coup, Bretéché m'a été d'une aide. Elle le sait pas, mais je me suis raccrochée à elle complètement parce que, en plus, c'est une femme, c'est une dessinatrice. Ce serait extrêmement présomptueux de dire que je me suis identifiée. Là, vous pouvez me gifler si vous voulez. Mais je crois que inconsciemment, il y a eu un truc comme ça parce que bon, on était un petit peu paumés tous cette année. Et je l'avoue, je me suis raccrochée à ce modèle-là de femme qui n'est pas obligée de parler de politique, qui peut faire un autre travail et qui va parler différemment des choses. Et c'est vrai que ma série dans Charlie ne parle plus du tout de politique, elle ne parle que de cul, si jamais ça vous intéresse. Non, ça parle d'amour.
Et de psychanalyse, un peu.
Et de psychanalyse, oui, oui.
On ne peut pas montrer, parce que malheureusement, la définition est... Mais on peut juste montrer... Comment ça se structure?
Oui, c'est le journal qui impose...
Parce que c'est malheureusement trop pixelisé et
oui,
voilà.
Mais c'est...
On ne savait pas que ça passerait comme ça. Mais voilà, donc c'est un strip en longueur.
Oui,
enfin,
c'est le format de Charlie Hebdo qui impose ce strip en 6 cases, parfois en 8 cases. Et donc, il s'agit de faire un gag, un essai, chaque semaine. Et ça s'appelle Scène de la vie hormonale. Et c'est vrai que ça parle de couple, d'amour, d'hormones. Donc, ce sont les hormones qui nous gouvernent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est quand même tous embarqués dans ce même bateau. Et c'est vrai que là, j'assume plus l'influence de Bretéché, mais comme vraiment un mentor qui pourrait me guider et m'orienter vers une sorte de travail qui ne serait plus le dessin politique et le dessin de presse qui pour moi maintenant est synonyme d'horreur en fait. Donc le temps que je digère, je fais mes petits machins là, hormonaux.
Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est très féministe, puisque les féministes disent toujours que le quotidien et la vie personnelle est politique. Donc, c'est, très politique aussi.
Peut-être, je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que c'était plutôt vital. C'est-à-dire que ça me semblait plus important de parler d'union, d'amour, d'échec, de trucs comme ça, de toutes les conneries. On est tous concernés, de rapport homme-femme, ça me semblait vraiment important de parler de ça. Enfin, je ne me suis pas vraiment posé de questions, en fait, c'est venu comme ça. Plutôt que de faire un énième dessin sur Hollande, sur Valls, sur Sarkozy, sur DSK, etc., là, je ne pouvais plus, en fait. Donc, voilà, je préfère... aborder le vivant, enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est des petites cases sur les humains, les animaux que nous sommes plutôt. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas à ça qu'on peut jauger justement le caractère révolutionnaire de son apport à la bande dessinée, puisqu'elle aurait d'une certaine manière créé un genre en soi dont on pourrait s'emparer, comme en littérature, certains à un moment donné ont inventé le sonnet, la tragédie, que sais-je encore, que le témoignage, tous ces genres littéraires qui sont codifiés. Est-ce qu'elle n'est pas révolutionnaire en ce sens qu'elle a inventé une sorte de genre spécifique dans la bande dessinée que vous auriez pu reprendre, quitte carrément à avoir une commande de la part d'un quotidien pour ça, en essayant de réemployer, y compris l'absence de décor, l'absence de phylactère, tout ce qu'elle a apporté en termes graphiques. Est-ce que ce n'est pas une des réponses peut-être à cette question de l'héritage même si c'est une question compliquée, je sais, je vois bien.
Bah oui, c'est difficile parce qu'on aurait, enfin moi, on aurait l'impression de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais après, elle était aussi, elle, le fruit peut-être d'une époque, d'une mentalité où les gens étaient très politiques. Il y avait, des discussions visiblement en permanence. Mais ses copains de l'époque aussi, je sais pas. Il y avait Martin Véron, il faisait par exemple. Mémoire.
Il y a Lozier qui fait un très beau texte aussi dans ce livre.
Mais il mettait en scène la vie quotidienne, les problématiques de l'amour, de rencontrer machin.
Lozier aussi.
C'est vrai qu'après, elle, en tout cas, encore une fois, elle est frustrée, elle a fait un travail de mise en scène qui est vraiment, vraiment marquant. Après, le sujet du quotidien et tout, elle n'est pas la seule à l'avoir amené en bande dessinée, enfin, il ne me semble pas, hein, mais c'est vrai que là, comment elle le synthétise et comment elle l'a réinventé, quoi. On dirait qu'il n'y a presque plus qu'elle qui reste, quoi.
Et en même temps, moi j'ai envie de dire dans la transmission qu'elle donne, puisqu'on parle d'héritage, quand on regarde après Les Frustrés, quand on regarde toute la série d'Agrippine, je trouve qu'elle fait passer tout ce qu'elle a vécu justement de ces années-là par le biais des générations. Dans Agrippine, il y a l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et Agrippine. Et en fait, dans toutes ces relations et ces réseaux et tout ce qu'on voit dans les petites les planches, en fait, tout ce qui se joue, c'est véritablement ces transmissions. Ils ont des positions, ces femmes, très différentes. Et en fait, ces positions viennent de la manière dont elles ont été nourries, formées, cadrées par ce qu'elles ont vécu à différentes époques. Et j'ai l'impression qu'elle fait passer via Agrippine en fait tout ce qui s'est vécu avant, en fait, des générations précédentes, avec un changement aussi, je pense, stylistique et autres. Il y a quand même des évolutions, mais on retrouve, elle fait passer son héritage générationnel via comme c'est conséquent. Je ne sais plus combien, il y a 5-6 albums, même plus peut-être, dans Agrippine, donc il y a quand même
8, je crois.
Oui,
Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez, Fabienne, pour justement la question de l'évolution. Et là, encore une fois, c'est une question que je voudrais vous poser à toutes les deux. C'est-à-dire, est-ce que quand on entrevoit peut-être une œuvre au long cours, etc., est-ce que son évolution, la manière dont elle a eu justement de passer d'un type de personnage à un autre type de personnage, passer de cellulite à salade de saison, puis au frustré, puis encore à Agrippine, est-ce que ça constitue un modèle, ce type d'évolution, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer comme ça d'un univers à un autre? Est-ce que c'est enviable quand on est c'est une question difficile aussi, c'est une question un peu raide, mais est-ce que dans son héritage il n'y a pas aussi cette espèce de capacité, cette espèce de plasticité incroyable qui fait qu'elle a pu se renouveler en profondeur et créer à la fois quelque chose de mythique comme Les Frustrés et ensuite quelque chose d'aussi mythique dans un autre genre comme Agrippine? Je suis vraiment désolée.
Ça c'est propre à chaque auteur. On peut pas vraiment. Je ne pense pas qu'elle l'ait intellectualisé une seconde. C'est venu comme c'est venu. Les choses viennent quand elles sont prêtes. Les albums naissent comme ils sont. Après, Agrippine, elle en a fait un personnage sur 8 albums. Elle ne l'avait peut-être pas prévu à la base. Enfin, après, tant qu'un sujet nous intéresse, on le travaille. Et puis, quand c'est fini, et ben, on passe à autre chose parce que c'est très intérieur. Et ça, moi, j'aurais du mal à... Moi, ce qui m'intéresse plus chez elle, c'est plutôt la bande dessinée et puis la peinture. Et enfin, comment... dans ce livre-là, il y a vraiment un panel...
On peut montrer certaines choses.
D'expérimentation, ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
Ah ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. C'est son travail à côté de la bande dessinée aussi qui est intéressant. Les pastels, les peintures, voilà, tout ce qu'elle... alors, il y a du
portrait réaliste. Tout ce qu'elle a continué à faire.
Oui, il y a des autoportraits aussi, on l'a vu, où elle se défigure pas mal.
C'est une affiche qui a été refusée qui a été refusée pour la fête de la musique. Et c'était considéré comme un petit peu trop...
Un petit peu scandaleux. Ouais.
C'est un autoportrait qui, encore une fois, ne met pas complètement en valeur. Hein. C'est de fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors donc, du coup, si je rebondis, c'est cet aspect presque le travail intime, presque pas montré, quasiment pas montré, de la peinture, cette espèce de double énergie qui consiste à faire de la bande dessinée d'un côté et à continuer un travail pictural, on va dire.
Oui, c'est sa curiosité et qui peut nous donner envie. Enfin, moi, quand je vois ces portraits-là, enfin, ces travaux au pastel, ça me donne envie de dessiner. Alors, pas de la même manière, bien sûr, je ne pourrais pas, mais voilà. Alors que j'allais dire de lire une page de BD, des frustrés, etc. Déjà, j'éclate de rire, je trouve ça fabuleux, etc. Et je vais le garder en moi. C'est mon petit plaisir de lectrice, etc. Je vais pas forcément dire tiens, je vais prendre la plume et j'essaie de dessiner comme ça. Ça marche pas. En revanche, un travail beaucoup plus plastique, un travail de peintre. Oui, ça c'est toujours intéressant parce que là, elle fait vraiment un travail de peintre. Enfin, c'est du pastel, mais elle a d'ailleurs utilisé de la gouache ou elle a fait d'autres choses.
Je remontre un celui-là. Ouais.
Alors, elle travaille d'après photo. Elle m'a dit ça, c'est pas bien. non, mais elle...
Il y a de très beaux exemples. Au tout début de l'exposition, il y a une très belle vitrine, ouais, avec des
oui,
peintures.
Oui, elle a peint son mari, Guy Carcassonne, son fils, Martin. C'est magnifique, c'est très drôle en plus.
Elle ne peut pas s'empêcher de
faire une blague.
Un livre de Kierkegaard qui s'appelle
J'élève mon cochon.
J'élève mon cochon.
Ouais. Mais on retrouve, c'est formidable, parce que quand elle fait de la peinture, c'est de la peinture classique. La facture, la touche de couleur, c'est... C'est pas du Chardin, mais presque.
Oui,
mais elle s'inspire toujours des peintres. On sent qu'elle a, donc on disait, elle a beaucoup lu, mais elle a aussi beaucoup vu de peinture. Elle se la raconte pas, comme disent les jeunes, comme disent nos jeunes. Mais on sent qu'elle a vu beaucoup de choses. Et dans ses bandes dessinées, on retrouve ça aussi. C'est ce que je trouve génial et qui me fait rire. On voit ça dans Le Destin de Monique. Ou d'autres dans Les Frustrés aussi, c'est qu'il y a des pastiches, il y a des extraits de tableaux. Dans Le Destin de Monique, il y a une parodie de Longinus de Millet, mais tout ça est lié à la GPA, à la PMA, aux éprouvettes, au machin, à l'IVG. Donc elle s'amuse à reprendre des détails de tableaux classiques et elle les détourne. Et c'est prodigieux, quoi. Et on sent même dans les postures, on parlait des fameuses postures tout à l'heure, les attitudes qu'elle dessine, etc. On sent qu'elle a vu vraiment de la peinture classique et aussi contemporaine. Je pense qu'elle a vu énormément de choses. Voilà.
Mais du coup, ma question n'était pas complètement idiote. Alors, c'est-à-dire que l'influence qu'elle a sur vous, c'est l'obligation à être obligée de rester, de rester dans une forme de boulimie d'image pour pouvoir progresser, en quelque sorte, pour pouvoir aller plus loin.
Obligation, c'est dommage de dire ça. Parce
on ne
que
vous oblige à rien.
Non, voilà, on ne peut pas. Un dessinateur ne peut pas obéir, c'est pas possible. Mais bien sûr, elle a une boulimie. On dirait qu'elle a une boulimie tranquille, en fait. Je trouve qu'il y a une sorte de tranquillité qui se dégage. On sent que c'est pas... Enfin, elle a énormément bossé quand elle faisait Elle est frustrée. Elle le dit, les vidéos dans l'expo le disent. Mais il y a aussi une sorte de tranquillité, presque une paresse qui se dégage de son travail. Et ça, c'est pas intéressant aussi comme... Voilà, puis elle n'arrête pas de le dire, que c'est super.
Que le travail, c'est l'enfer.
C'est l'enfer. Elle est très heureuse quand le boulot est terminé. Elle se plaint tout le temps. J'avais demandé à René Pétillon, mais elle se plaint tout le temps comme ça. Elle me dit oui, ça fait des années depuis que je la connais. Elle se plaint. Bon, voilà. Donc c'est...
Et pour revenir sur la question des postures, la question de la... Est-ce que la... Je voulais creuser un petit peu cette question.
Creusons.
Est-ce que cette idée d'avoir vu de la peinture beaucoup... Parce que tout le monde, bloque, comme disent les jeunes, encore une fois, sur ces postures d'adolescente ou d'intellectuel de pacotille, comme on disait tout à l'heure, avachi, etc. Il y a quelque chose qui est vraiment indéfinissable, qui appartient qu'à elle, dans cette manière de représenter les personnages, dans leur posture, dans leur manière d'être. Il y a quelque chose qui vous semble très impressionnant.
Oui, elle a l'avachissement très, bretéchérien, mais oui, parce qu'on ne retrouve pas ça, en tout cas chez les auteurs de sa génération, on ne retrouve pas ça chez Gottlieb, on ne retrouve pas ça chez Pétillon. Non, elle a... Il y a une mollesse chez ces personnages qui varie parfois. Enfin, c'est mêlé parfois à une certaine hystérie. Quand on voit Agrippine, il y a une énergie adolescente. Et puis, il peut y avoir des gros moments d'avachissement, comme ça. Oui, j'ai l'impression que c'est propre à elle, je crois. Enfin...
Oui, et puis aussi, me venait à l'esprit, quand on regarde, aussi, il y a les moments de... En même temps, l'avachissement, et puis des cases où il y a juste un mouvement. La personne est en action. Et ça, je trouve ça assez typique aussi de la manière dont elle campe les personnages. Hop, ça y est, il y a la décision et la chose se fait. Et il n'y a que ça. Voilà, c'est une focale sur ça. Et ça, je trouve que c'est assez typique, effectivement, aussi de sa manière de dessiner.
Je réfléchissais intensément. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti. Enfin, c'est que en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant, il y a plein de dessinatrices comme ça qui représentent les femmes avec la mode. Enfin, et en fait, il y a une complaisance et il faut que elles font les filles jolies, quoi. Et c'est assez esthétique. Et donc, elles ont des très longues jambes et machin. Et elles ont la super paire de chaussures de je sais pas quoi. Et en fait, Bretéché, elle met en scène ses personnages. Et les positions sont justes. C'est-à-dire que le corps dessiné parle autant que le dialogue.
Moi, je trouve beaucoup de points communs.
C'est chiant d'enlever des collants quand on est...
Il y a des personnages de Bretéché qu'on peut voir justement dans ses actes du quotidien.
Ouais.
Aussi... ennuyeux, et d'ailleurs sur une planche entière, essayer de mettre quelque chose, l'enlever, le remettre. Et je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui est commun.
Oui, je me rappelle d'une planche où elle essaye de mettre ses... Enfin, il me semble que c'est elle. Enfin, elle essaye de mettre des lentilles. Elle veut se faire belle parce qu'elle va sortir et donc elle met des lentilles. Et en fait, elle se maquille et donc elle s'en met plein les yeux. Donc elle a l'œil qui pleure. Et ça dure toute la planche et à la fin, elle se démaquille, elle jette les lentilles, elle met ses lunettes et elle se casse en étant furieuse. Et c'est vrai que c'est hyper mignon ces petits moments parce que ça nous réconcilie avec le concret et avec nos maladresses et on se sent moche et on se sent triste. Et on sent je sais pas quoi, et elle a l'art de mettre ça en scène et ça nous fait rire et du coup ça nous console quoi, et je trouve qu'elle est pour ça elle est géniale.
Et c'est vrai qu'elle égratigne tout le monde et elle n'est pas du tout dans la séduction. Et on l'a vu avec ses autoportraits, elle se dégomme, elle se traite de la même manière que ses personnages et c'est vrai qu'elle est anti-girly, pour reprendre le mot. T'as failli dire ça tout à l'heure.
Je l'ai pas dit.
Mais oui, mais il faut le dire. Non, elle est vraiment... j'ai en tête une autre planche qui est semblable à celle des lentilles. C'est où il y a une nana qui essaie de... qui essaie un jean dans une cabine et qui est hyper serrée, enfin qui est hyper boudinée. Il y a c'est ça. Bon, on a toutes eu ça, je pense, à un moment donné dans notre vie. Alors le jean lui va vraiment pas, ça lui fait un gros cul, ça lui fait des... Enfin, c'est horrible et tout ça. Et elle finit par acheter le jean quand même, elle ressort et en tirant la gueule. Enfin, bon. Et dessiné par Bretéché, c'est génial parce qu'on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve et ça nous fait marrer, on se marre de nos propres défauts, etc. Dessiné par quelqu'un qui aurait un trait, juste un trait un peu plus mou, un peu plus doux, un peu plus...
Très
propre et qui essaierait de faire joli et tout ça. Bon, on tombe évidemment dans un truc complètement débile, et fashion. Et donc voilà. Donc moi j'adore aussi ça, son côté absolument implacable où elle... Il y avait un journaliste qui avait utilisé cette expression, j'adore, c'est une boîte à gifles. Elle ouvre la boîte à gifles, quoi. Elle donne des gifles. Moi, ça fait vraiment rire, quoi. Les gifles, c'est très drôle, les gifles.
Donc son héritage, ça pourrait être d'autoriser la représentation des aspects les moins reluisants. c'est peut-être c'est une autorisation qui ne se donnait pas les dessinateurs de bande dessinée auparavant. Gottlieb un petit peu, puisque au même moment il invente aussi l'autobiographie.
Oui, je pense qu'il y a
autodépréciative, mais
il y a quand même tous ces auteurs de cette génération. Tout à l'heure je parlais de GB ou même de Kabu Wolinski. Bon, tous ces auteurs là de cette époque-là, d'Harakiri, de cette presse libre quand même qui est née en mai 68 en bande dessinée, ça s'est ressenti aussi, l'Écho des savanes, etc., Gottlieb, Mandrika. Donc on a quand même des modèles assez décomplexés qui nous aident, on peut s'autoriser, ils nous ont donné autorisation de faire beaucoup de choses, ils sont nombreux quand même, Reiser, Wolinski, on est nombreux à pouvoir faire des conneries comme eux, quoi.
Par contre, c'est quand même pour moi un regard. Elle a un regard où, avec le côté acerbe, il y a toujours ce regard très humain et très. Finalement, elle a de la tendresse pour tous ces travers des personnes. Et aussi, je trouve que parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a cette position-là et tout ce à quoi on l'a assigné, elle a particulièrement une tendresse pour tous ces travers qui sont propres à ce qu'on impose aux femmes et aussi aux hommes par contre-coup. Et je pense que ça, c'est quand même assez singulier dans ce qu'elle nous livre, parce que tous les autres autour, c'était que des hommes. Oui. Et qu'il y a notamment eu cette fameuse revue qui s'appelait Anana, où elles ont essayé entre 76 et 78 de faire une revue féministe où elles puissent exprimer justement ce regard particulier des femmes sur la société. Et notamment Nicole Clavelou ou Chantal Montelier qui ont, je pense, gardé un trait pour Chantal Montelier très virulent féministe. Je pense qu'il y a aussi ça dans ce qui, je pense, fait le succès de Brett Escher, c'est ce regard particulier sur les questions de genre qui me semble pas être traité de la même manière quand on disait ce qui se passait effectivement quand elle arrivait dans des comités de rédaction quasiment uniquement masculins. Je pense que ça a peut-être aussi produit en par contre-coup une position plus affirmée par rapport à ce regard féministe.
Oui, elle le dit. C'est pareil, vous le verrez dans l'expo, mais elle le dit, elle a d'abord été ultra féministe, et puis après elle s'est calmée parce qu'elle supporte pas, on l'a dit déjà, elle supporte pas les dogmes, elle supporte pas d'être dans les cases, donc ce mouvement féministe, bien que elle en partageait les idées, ça l'a gonflée, donc elle est sortie de ça. Et c'est vrai ce que vous dites sur le traitement acerbe et à la fois tendre de ses contemporains. Ce qui me frappait, par exemple, ce qui me frappe dans les bouquins de l'époque, c'est que Brett Escher nomme son livre Les Frustrés. Elle voit ses semblables, elle les appelle ses frustrés, des frustrés. Et un Reiser, par exemple, à côté, lui, faisait un bouquin qui s'appelait Ils sont moches. C'est le titre de son bouquin, c'est Ils sont moches. Bon, voilà, on a Ils sont moches. Et effectivement, il sortait il était implacable lui aussi, mais d'une autre manière. Et c'est sûr que la tendresse de Brett Escher est particulièrement appréciable et fait, oui, sans doute que son travail nous plaît encore aujourd'hui, oui.
Mais c'est amusant que vous rapprochiez Reiser et Brett Escher, parce qu'effectivement, ça fait partie parfois de choses complémentaires dans les bibliothèques, on retrouve les deux. Mais j'ai l'impression que chez Brett Escher, il y a une interrogation, on va dire sociologique, qui est un petit peu qui me semble assez importante, c'est la question de la mauvaise foi. Tous les personnages qui se mettent en scène dans ces dialogues analytiques incessants, etc., sont des personnages, et je pense que c'est pour ça que la question de la psychanalyse est aussi importante, c'est que c'est toujours une auscultation de la mauvaise foi avec laquelle des gens interrogent la mauvaise foi elle-même, c'est-à-dire ils sont dans une espèce de... Et j'ai l'impression que c'est aussi ça, pour le coup, ce en quoi elle est très très fine d'observation et en même temps très tendre, c'est qu'elle est capable à la fois de présenter des discours de complète mauvaise foi comme finalement... terriblement humain, mais en même temps, elle essaie de les proposer dans toute leur bêtise, un peu immédiate. Voilà. Donc
c'est oui, non, mais c'est vrai. Elle arrive à, elle repère les contradictions de chacun, mais comme vous dites, c'est terriblement humain. L'humain n'est que contradiction. On a beau faire appel à Freud pour essayer de comprendre pourquoi on se contredit, bon, c'est comme ça. Et elle l'a très très bien traité. Ce qui est extraordinaire avec Brett Escher, c'est qu'à chaque fois, on se dit, mais elle a tout compris, elle a tout vu, elle a tout compris, elle a parlé de tout, et c'est formidable.
Ouais, et non. Alors c'est exact. Sur la question de sur la question du rapport au féminisme, le regard sur les hommes, les femmes, il y a un très très chouette passage dans l'exposition, je crois que c'est chez Pivot pour le coup, où elle dit, Pivot lui dit, ah quand même vous êtes plus sympa avec les hommes qu'avec les femmes, et elle dit ah non c'est archi faux, et elle s'emporte, elle dit non c'est archi faux, je comprends rien aux hommes. D'ailleurs elle redit dans ce très bon livre, dans justement le chapitre consacré aux hommes, elle dit vraiment j'y comprends rien, et elle dit une femme, je la vois 10 minutes, je l'entends parler, je comprends tout de suite, un homme 10 ans, je comprends pas. Et c'est aussi très étonnant qu'elle tienne ce discours-là, alors que précisément en lisant Les Frustrés et même en lisant Agrippine, on a l'impression que le regard sur les hommes est à peu près aussi perspicace que le regard sur les femmes. C'est assez contre-intuitif finalement ce qu'elle dit dans cette interview.
Oui, bah, c'était une interview.
Ouais,
hein,
c'est ce que j'allais dire. C'était un plateau télé, donc voilà.
Elle avait l'air aussi. Elle est
quand même assez véhémente. Hein.
Oui, et puis très pertinente, et puis très drôle, et puis peut-être un peu timide. Enfin, voilà, il ne faut pas prendre tout. Mais moi, de ce truc de contradiction, mais je crois que c'est aussi dans l'exposition qu'elle dit ce truc-là, où elle explique ce travail. C'est, ce qui l'amuse, c'est les gens sont. Enfin, je parle pour moi aussi, on est content, on avance en âge et tout, on comprend comment le monde fonctionne, on a l'impression que, ouais, on commence à saisir un peu comment ça marche, et en fait, il se passe un nouveau truc, mais on essaie quand même d'appliquer, on essaie quand même d'expliquer, et puis aux enfants aussi qui y arrivent, hein, qu'on a tout compris, et en fait, la mauvaise foi est là, c'est qu'en fait, dans le fond, on est complètement flippé, on comprend rien, mais on fait comme si on avait tout compris, et que d'ailleurs, on allait faire des conférences pour... j'ai l'impression qu'elle joue là-dessus, et c'est vrai que ça fait du bien aussi, parce que ça, l'intelligence, c'est de se remettre en question et dire ce qu'elle dit pour les mecs aussi, je suis avec toi depuis 10 ans, je te comprends toujours pas, donc je te redécouvre tous les jours, et je sais pas, ce truc un peu, j'arrête. Non, mais c'est pas poser les choses dogmatiquement, comme, voilà.
Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle était en avance sur plein de choses, sur la procréation assistée, avec plein de choses complètement dont elle parle qui sont pas forcément réelles quand elle en parle, mais qui vont devenir réelles ensuite. Il me semble qu'elle sent par ses contradictions internes ce qui est de l'ordre de ce à quoi on aspire, et puis ce qui bloque, et elle essaye de mettre en image et en mots justement ces espèces de choses qui sont en nous et qui nous qui sont en train d'essayer de s'articuler pour aller plus loin, mais qui ne sont encore pas allés plus loin. Et j'ai l'impression que ça, c'est une manière de regarder le monde qu'elle a une façon très juste de les croquer, même si je ne sais pas si elle-même tout de suite elle est consciente de ce qu'elle croque et de ce que ça va devenir plus tard, quoi, de d'avoir croqué des éléments de changement, de choses importantes qui sont en train de se passer et dont on n'a pas forcément conscience tout de suite, mais avec le regard et le recul, on se dit « Ah oui, elle a vu ça, et c'était, 10 ans ou 15 ans avant que tout à coup ça devienne un vrai sujet de société. »
Et pour être un tout petit peu mauvais esprit, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent incompréhensibles aujourd'hui pour le public, dans Les Frustrés, dans Agrippine éventuellement, ou dans... Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aujourd'hui tellement relatives à l'époque, aux années 70, aux préoccupations qui étaient celles des années 70, qu'aujourd'hui, ça arrête la lecture et ça...
J'ai du mal à trouver un exemple, là. Enfin, j'ai une page en tête des Frustrés.
Qu'on ne tourne pas à la géographie.
Oui, on était en train de construire le monument, là. C'est vrai, il manque la toiture. Non, je repense à une page des Frustrés où, je ne sais plus... Encore un groupe de personnes avachies, un tas de gens, un tas de personnes autour d'un canapé, et il est question, enfin il y en a un qui fait sensation à la fin dans la dernière case, parce qu'il dit qu'il héberge chez lui un Chilien ou je sais pas quoi, donc ça vraiment ça pète, quoi. Il dit ah ouais, tu t'occupes d'un... Bon, on en remplace Chilien aujourd'hui par migrant ou par afghan, je sais pas quoi, ça marche toujours, quoi. Et donc non, je vois pas vraiment de... C'est ce qui est troublant d'ailleurs, c'est que à la fois l'époque a vraiment beaucoup changé, et en même temps on retrouve dans Les Frustrés, enfin Bretéché a su croquer la façon dont la société de consommation qui commençait à exploser à ce moment-là nous traverse et nous rentre en nous avec violence d'ailleurs. elle l'a vu tout de suite et on retrouve ça aujourd'hui, alors que la société, on est encore allé plus loin. Aujourd'hui, on le voit dans notre société, on est en pire du pire et ça empire. C'est toujours actuel, ce qu'elle dit est toujours actuel. C'est assez fascinant, mais c'est ce qui fait qu'elle, comme vous disiez, elle a peut-être qu'elle n'a pas conscience de faire ça, et c'est ce qui fait un grand artiste, je crois, de pas calculer, en fait, de voilà, d'avoir une intuition. Elle est visionnaire sans l'avoir calculée, en fait. C'est...
Mais d'ailleurs, elle avait beaucoup
ri. Je continue la géographie.
Non, mais elle avait beaucoup ri, ou elle s'était beaucoup moquée du fait que Roland Barthes l'avait
nommé
sociologue de l'année.
Ça la gonfle, cette expression. Ouais. Ouais, elle en a marre de l'entendre.
Qu'elle était une...
Et par contre, moi, je peux dire des choses qui vont contre la géographie, parce que effectivement, on en avait discuté par rapport à l'héritage. J'enseigne en école d'art, et quand je parle de Brett Escher, parce que souvent, les étudiants ou les étudiantes travaillent dans un sens alors plus du côté du roman graphique ou de ce qui peut s'y rapprocher. Donc, évidemment, Claire Brett Escher me vient à l'esprit, pas que, mais elle fait partie des références que j'ai, et que je leur cite Claire Brett Escher. Ils ne savent, en fait, pour souvent, et pas que dans mon école, dans d'autres écoles, j'ai fait le même test. Quand ils soutiennent leur diplôme de cinquième année, je suis membre du jury, je parle de Claire Brett Escher, et ça fait totalement un flop parce que ça ne fait pas référence. Et donc, quand on parle d'héritage, l'exposition, heureusement qu'elle a lieu, je pense que peut-être ça va faire recirculer. Il y a aussi toutes les republications de tous ces albums anciens qui, de fait, ne circulaient plus parce qu'ils n'étaient plus édités. Donc, peut-être ça va faire recirculer parce que dans les thématiques, ça intéresse. C'est véritablement des choses qui passent une fois qu'on a donné la référence. Mais malheureusement, alors est-ce que c'est parce que c'est la BD ? Est-ce que c'est parce que c'est BD plus le fait d'être femme, etc. ? Il y a plein de critères qui peuvent faire que, en tout cas, ça n'a pas forcément franchi la barre de la transmission de génération en génération. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai constaté que voilà, il y avait des lacunes de ce côté-là. Donc la géographie.
Il faudrait tweeter voilà. Ces cases et ça marcherait. Les mettre sur
internet.
Aude, il y a des choses qui vous semblent difficiles à comprendre aujourd'hui dans ce qui est, ou dans les frustrés, dans la grippée.
J'ai pas lu tout sur Brett Escher, mais les frustrés, je les ai vraiment relus régulièrement et pareil, je reste stupéfaite de l'actualité de certaines planches. Voir que ce serait peut-être bien effectivement de les retweeter de temps en temps parce que on sait plus s'exprimer comme ça et que ce regard-là manque parfois un peu quoi de franchise, d'honnêteté et tout ça. Enfin après j'ai pas tout lu quoi, mais les choses plus anciennes avant les frustrés par exemple, j'ai pu que feuilleter et j'avais un peu plus de mal, mais c'était voilà, c'est je connais moins bien donc je peux pas en parler.
Oui, je veux dire, il y a le Bolo occidental, par exemple, qui parle d'écologie.
Qui a été publié dans Le Sauvage.
Voilà, qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a, quand on regarde aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression qu'on peut les relire, mais que, effectivement, je les ai lus il y a peut-être, je ne sais pas, 15 ans. Ça me semblait peut-être moins d'actualité, mais quand je les relis aujourd'hui, alors il y a peut-être aussi des jeux comme ça d'interférence avec ceux qui nous préoccupent, nous, en ce moment. Quoi.
Alors, on va peut-être passer aux questions de la salle, puisque l'heure tourne et que c'est le moment de cette possibilité pour vous de poser des questions à l'une ou à toutes les trois... À l'une de nos intervenantes ou à toutes les trois à la fois.
Alors je vais peut-être commencer par une question à Fabienne Dumont. On a parlé de, en fait, le mot Catherine, vous avez dit le mot girly. Alors vous qui êtes historienne de l'art, vous dites d'ailleurs que vous faites passer des diplômes de fin de cinquième année. Comment vous voyez l'émergence, je dirais ces 15 dernières années, en fait, de cette tendance du girly, quel public s'intéresse, voilà.
Ah, ça, c'est une question difficile. Effectivement, oui, les 15 dernières années, milieu des années, même peut-être un peu avant, un public d'adolescentes, ça certainement. L'impression peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui viendrait du côté des mangas, peut-être il y a aussi ces, où ce qu'on disait de l'intérêt de Brett Escher pour le texte passe peut-être en arrière-plan. Mais j'ai pas d'explication, comme j'ai pas étudié le sujet dans son détail, donc j'ai pas d'explication plus que ça. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là et qui est présent aussi. Je le vois chez certaines de mes étudiantes que j'essaye de questionner pour que ça puisse se réfléchir.
De remettre dans l'axe, non?
Non, je n'ai pas vraiment d'axe, mais en tout cas de faire réfléchir à ce qui peut être montré des corps, parce que effectivement, souvent, c'est des normes. Et au contraire, je pense que les questions, l'apport des féministes ont été du côté de la déconstruction des normes, et que ce côté girly, c'est un retour en force de normes corporelles très fortes.
Oui, alors là, c'est plus au niveau de la technique pour le dessin. Je me souviens d'une émission, c'était sur France Culture, et c'était Claire Brett Escher qui était invitée. Et alors, c'était il y a longtemps, c'était peut-être dans les années 2000, et c'était le début du numérique, enfin bref. Et alors, elle expliquait qu'elle utilisait ses pinceaux pour faire ses planches, tout ça. Et comme c'était le début du numérique, elle s'est dit, bon, bah, je vais quand même essayer de m'y mettre au numérique. Et alors... si je me souviens bien, elle a laissé tomber, elle a dit « Oh non, parce que j'ai mis au moins une journée à faire quatre cases, ou une planche, enfin bref, elle avait mis un temps fou avec le numérique et tout, donc elle avait tout laissé tomber, et elle avait repris ses pinceaux. » Et je retrouvais justement ce naturel, enfin cette liberté, bon ben voilà, bien sûr il y a le numérique, mais enfin elle préférait ses pinceaux. Et alors vous qui êtes dessinatrice, je voulais savoir justement qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous utilisez le numérique? Est-ce que vous prenez des pinceaux? Enfin, voilà, c'est là, au niveau de la technique du dessin.
Catherine, je pense que tu dois dessiner à la plume, non? Enfin, ou au pinceau. Ouais, moi, je suis dans un atelier avec une dizaine d'autres dessinateurs, et le pinceau est en minorité, je le regrette, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le numérique a fait beaucoup de progrès. Je pense aussi que Brett Escher c'est quand même un apprentissage. Moi, je dessine à la plume, je devrais me mettre au pinceau. Je pense que pendant un mois je souffrirais beaucoup parce que je sais pas dessiner au pinceau. Donc passer du numérique, c'est pas en une journée, c'est sûr qu'on peut maîtriser le truc, mais après le numérique, moi j'aime pas, enfin je préfère dessiner à la main sur du papier parce que d'abord ça me fatigue moins l'écran, rester scotché à un écran dans une position assise comme ça, enfin, je suis pas confortable, je préfère être libre de mes mouvements et la table à dessin, je m'y sens mieux. Maintenant ils font des scintilles, ça s'appelle des scintilles, enfin, c'est une espèce d'écran sur lequel on peut dessiner directement, et on est donc comme sur un écritoire. Ils font des progrès énormes, et donc on dessine directement sur l'écran avec un stylet qui peut, en fonction de comment on le paramètre, peut être soit un pinceau, soit une plume, soit une brosse, enfin, c'est assez fabuleux, quoi. Donc après moi je m'y mettrai jamais, je pense que ça m'intéresse vraiment pas.
Oui, moi c'est la même chose, en fait. Je suis assez attachée aux outils traditionnels, la plume, l'encre de Chine, c'est pareil, je ne travaille pas beaucoup au pinceau, comme tu dis, c'est encore autre chose le pinceau, mais la plume, je trouve que le trait à la plume a une vie propre, en fait. C'est pas du tout un trait de feutre dessiné de manière industrielle qui va avoir un trait unique. Dans un trait de plume, il se passe plein de choses, il y a plein d'accidents, on fait des tâches, tout ça est très vivant. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait Brett Escher dans l'expo. Elle dit que, dans une vidéo, elle dit que par moment, donc elle dessine à la plume, par moment elle doit gratter avec sa lame de rasoir, et puis aussi par moment quand la plume rentre en contact avec le papier, il y a des frottements. Et ça, c'est intéressant, les frottements sont intéressants. D'ailleurs, ça me fait rire parce que les frottements, en fait, c'est dans le fond comme dans la forme. En fait, chez Brett Escher, elle repère tous les frottements et elle en fait des pages. Mais moi, je suis assez attachée à cette sensualité, en fait, qu'on retrouve pas avec les outils plus modernes. Mais comme dit Aude, on fait des choses spectaculaires, évidemment, avec l'ordinateur. Mais de la même manière, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Je préfère encore... En plus, je trouve que quand on dessine à la plume, quand on va mettre en couleur, parce que c'est ton cas aussi, on met en couleur avec des encres, avec de l'aquarelle, etc., il y a une réflexion Différente. On n'est pas devant un écran, on n'a pas du tout la même passivité en quelque sorte. On a une autre forme de concentration, je trouve, qui moi m'intéresse, qui nourrit mon travail. Enfin voilà, c'est la façon que j'ai trouvé de travailler. Ouais. Non, elle est allergique à ça. C'est Pétillon aussi qui disait qu'elle a essayé de se mettre aux emails. Et puis Pétillon lui a fait une séance pour lui expliquer comment écrire un mail. Et elle a arrêté tout de suite. Elle a dit arrête, on va s'engueuler. Donc elle a arrêté. donc je crois qu'elle en est encore au fax. Non, elle est allergique à tout ça et elle s'en sort très bien.
Tous les frustrés ont été auto-édités. Il y a eu des années pendant lesquelles on n'arrivait pas à les trouver. Elle a refait une édition globale de tous les frustrés. Il y a des tomes qui ont pu être relus. Mais le Baratini Molgaga est introuvable parce qu'elle s'est fâchée avec Dargo. Et ça fait partie de... Oui, c'est maintenant Dargo réédite tout, mais à l'époque, quand elle est partie et qu'elle a voulu être auto-éditée, tout le monde lui a un peu dit bah, débrouille-toi. et c'est aussi ça la leçon de Bretéché. C'est la première à avoir décidé de s'auto-éditer parce qu'elle avait décidé de garder, enfin, d'être maîtresse de son outil à tous les niveaux. Est-ce que ça a une influence aujourd'hui sur votre façon de travailler? Parce que par exemple, Aude, vous avez édité chez Varum, qui est une maison assez petite et assez indépendante. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi à votre métier dans ce sens-là aussi.
Bah, l'auto-édition en bande dessinée, c'est quand même une pratique assez courante, quand même. Parce que ce qui est génial avec la bande dessinée, c'est qu'il suffit d'une feuille qu'on plie en quatre, d'un bout de crayon, et ça fait un livre, quoi, vraiment. Donc, moi, j'ai auto-édité mon premier ouvrage en squattant les photocopieuses de l'école dans laquelle j'étais, et puis en faisant une couverture en sérigraphie, et puis en payant 1 euro un trait de colle qui relie les feuilles ensemble. Donc après, elle a poussé vraiment le truc assez loin, puisqu'elle était déjà très connue, il me semble, et qu'elle a auto-publié, parce qu'en fait, elle voulait maîtriser la totalité de la chaîne. Et puis c'est vrai que quand on regarde un petit peu combien touche un auteur comparé à ce que touche l'éditeur ou le distributeur, etc., bon, on a un peu les boules, quoi. Donc elle a voulu peut-être contrôler l'ensemble, mais je pense qu'au bout d'un... Enfin, c'est énormément de travail et c'est très, très... c'est comment assurer la distribution, la qualité de la production. Il faut trouver un imprimeur, il faut aller sur. Enfin, c'est. Et puis les stocks, où est-ce qu'on stocke les stocks? Comment on remet à jour? Enfin bon, elle est retournée chez Dargo parce que je pense que c'était. Enfin, je sais pas, hein, mais ça devait être beaucoup de boulot. Mais voilà.
Moi, je plaide coupable, hein, parce que vraiment, c'est sur mon conducteur, mais je trouvais que j'étais un peu long au début, donc j'ai coupé cette partie. Mais c'est vrai que je trouve ça absolument fondamental. Ce que j'ai tenu quand même à garder, c'était justement le fait d'avoir d'abord participé à l'Écho des Savanes, qui est une expérience d'auto-publication d'auteurs par eux-mêmes. Gottlieb, Mandrika, Bretéché fabrique ce magazine dans lequel ils se mettent en scène d'ailleurs. Enfin, c'est assez impressionnant et révolutionnaire. Et c'est tout à fait dans l'air du temps de la contre-culture, enfin de la free press américaine qui est un petit peu arrivée avec la bande dessinée underground américaine. Et voilà, il y a quelque chose là-dedans. Après, j'arrive pas à savoir, mais peut-être du coup, Fabienne pourra nous en dire plus, si l'expérience de l'autopublication est une expérience heureuse ou une expérience. C'est compliqué de savoir si c'est une expérience heureuse ou si cette maîtrise d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est pas aussi une sorte de boulet terrible à traîner derrière soi. Et est-ce que la qualité est au rendez-vous? Ça, c'est une vraie question.
La commissaire de l'exposition qui est dans la salle, donc elle va répondre.
Parfait. Toutes les réponses à nos questions.
Oui, bonjour. En fait, elle commence donc en 75 à publier le premier album des Frustrés, et elle va publier pratiquement tous ses albums en auto-édition jusqu'en 2004. Et donc c'est le sixième Agrippine, ou le septième sur huit. Ouais. Et en 2009, donc en 2004, Dargo reprend toute son œuvre. Et en fait, au début, elle a vraiment édité elle-même ses albums pour des raisons financières. Parce que c'est vrai qu'entre 10% et, je pense, 50%, elle avait un besoin vraiment de gagner sa vie, d'être indépendante. Et on parlait de féminisme tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai qu'elle est ambivalente. Mais d'abord, elle se dit non militante. Et ça, vous parliez de prendre les problèmes. Elle dit, je préfère prendre les problèmes par le biais. Et plutôt que de militer. Mais en fait, c'est une féministe incarnée. Elle arrive en 1960 à Paris, elle a 20 ans, elle veut gagner sa vie. Et je pense qu'en 60, les femmes auraient plutôt tendance que la majorité des femmes, en tout cas, se reposaient sur un mari pour gagner sa vie. Elle est vraiment... Elle veut être indépendante. Elle mettra des années... elle va galérer quand même pendant des années. Et ensuite, cette démarche d'auto-édition, c'est pareil. C'est encore un signe de son indépendance par rapport à toute structure, parce qu'elle avait effectivement... ses premiers albums étaient édités.
Sauf que ça peut coûter un fric fou, l'autopublication, si on repaye à chaque fois tous les... Parce que la fabrication, c'est un métier. On peut gagner 50% de quelque chose pour lequel on va dépenser une fortune.
Alors, elle est donc en 75, elle publie les Frustrés. Elle est publiée chaque semaine au Nouvel Observateur et ça lui donne une notoriété énorme. Elle vend tout de suite énormément.
Elle vend à plusieurs millions, j'avais lu.
Voilà.
Effectivement,
chaque album s'occupe de la diffusion. Qui met les exemplaires dans les librairies?
Après, il faut trouver un diffuseur. Etc.
Oui, elle a un diffuseur. Elle a un diffuseur-distributeur.
Des hommes.
À l'époque.
Des esclaves.
Des esclaves.
Mais comme elle le dit si bien, il ne faut pas la faire chier. Et c'est à méditer. Enfin, elle s'est donné les moyens de ça, mais elle le dit vraiment, c'est une leçon.
Et je crois aussi, dans cette idée-là, qu'elle participe complètement d'un esprit de l'époque, c'est cet esprit du do-it-yourself, faire soi-même. Et il y a énormément de revues féministes et autres de revues politiques qui à ce moment-là, éclosent. Et il y en a un nombre incroyable et qui vont durer quelques années ou quelques numéros ou parfois une décennie et pas plus. Et je pense qu'elle est aussi dans ça. Il me semble que cette idée de faire soi-même parce qu'on a envie de s'exprimer, parce qu'on a envie de dire ce qu'on a à dire et que personne ne va nous en empêcher, donc on va fabriquer. Je pense qu'il y a effectivement aussi ça derrière sa démarche.
Je pense que c'est un peu différent parce qu'elle ne crée pas. Ce qu'elle publie, ce n'est pas ce qu'elle crée. Alors, ce dont vous parlez, ce sont c'est le premier moyen de publication. Or, elle, ce qu'elle publie, c'est ce qui est déjà paru.
Oui.
Dans le Nouvel
Observateur,
en fait.
C'est prépayé. Enfin,
voilà, quand oui. Elle a, je ne sais pas, 40 publications, elle les publie. Oui. Et pour le Bolo, ça va être la même chose, puisqu'en fait, elle ne commence pas par les Frustrés, elle commence avant le Nouvel Observateur, par le Sauvage, donc en inventant ça, ouais. le
Qui était
le
une sorte de supplément du Nouvel Observateur, qui était non, non, lié non, au Nouvel Observateur.
Non, c'est Claude Perdriel qui a publié le Sauvage, une revue écologiste, et ça n'a pas duré très très longtemps, mais je crois que ça s'est toujours publié sur Internet ou c'est reparu sur Internet. Et donc elle commence avec les histoires du boulot et elle en fait ensuite un album. Enfin, c'est le fruit de ce qu'elle a publié dans la presse.
Oui, mais en même temps, ça donne un accès à un public qu'elle n'avait pas forcément parce que tout le monde n'est pas abonné ou n'a pas conservé. Donc, de les avoir dans un album entier, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de donner accès à un public beaucoup plus large que celui d'origine. Même si c'est ce public-là qui lui a donné son succès.
C'est juste par rapport à la création, au besoin de création, ouais. Parce que ça l'assouvissait ou elle subissait la contrainte, comme vous disiez. Catherine, chaque semaine, mais bon, c'était...
Oui, c'est enregistré.
Oui, alors moi, ma question, c'était tout simple, c'est est-ce que l'héritage de Bretéché est purement féminin et est-ce qu'il est franco-français ? C'est, voilà.
Purement féminin, je crois pas. Je pense à Ariadne Satouf, qui est quand même aussi dans la veine Bretéché. Après, après franco-français, oui, c'est une bonne question. C'est vrai que je sais pas d'ailleurs si ces livres ont été.
Si,
elle a été traduite.
Oui.
Traduit. Ce qui est quand
mais
même assez.
Des auteurs étrangers qui se revendiquent de Bretéché.
On est trop franco-français pour vous répondre, en fait.
Pas de souci.
Et aussi, c'est difficile de connaître exactement l'influence. On voit déjà, même avec les personnes dessinatrices présentes, il faut vraiment y réfléchir.
Dessinateur.
Quoi, pour savoir.
Enfin, oui, dessinatrice ici, mais.
Oui, dessinatrice ou dessinateur, c'est pareil. Il faudrait faire une véritable enquête pour que les personnes répondent. C'est
non,
pas
mais
toujours
c'est sûr, c'est qu'elle a influencé beaucoup d'hommes. Enfin, vraiment, c'est pas du. Enfin, c'est pas comment. Enfin. Pas que les femmes qui arrivent à comprendre le travail de Bretéché.
Oui, je me doute, mais comme ce soir, enfin, et puis en plus vous avez démarré par ça sur le salon des chiens, le salon des femmes, vous voyez.
On a failli inviter un chien.
Voilà, c'est ça.
Non, mais en tant que
femelle,
c'est très difficile. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très difficile à demander à quelqu'un, quelqu'un qui fait de la bande dessinée, c'est ses influences, parce que c'est toujours une espèce de point d'interrogation. On ne sait pas très bien. En tout cas, moi, je l'ai remarqué en interrogeant des gens qui font de la bande dessinée, c'est que c'est très compliqué pour eux de dire d'où ça vient, ce qui a été le plus important pour eux, etc. Sur Bretéché, il y a beaucoup d'hommes qui la revendiquent un peu comme une influence presque d'époque, comme ça, en tout cas d'esprit, mais pas forcément graphiquement. Je pense que Riyad Satouf, par exemple, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à voir entre le dessin de Riyad Satouf et le dessin
dans
de
le découpage.
Oui, mais c'est pas parce que.
Non, mais. Et puis, sinon, je crois qu'il y a plein d'autres. Je pense que, par exemple, les noms qui ont été évoqués, par exemple, pour fabriquer cette table ronde, c'était Blutch, qui, voilà, peut-être graphiquement a quelque chose à voir.
On voulait des jeunes aussi.
Et voilà. Il y a voilà, moi, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Charles Berberian, qui me disait que pour lui, Philippe Villemain, par exemple, était très influencé par Claire Bretéché, à son sens. Bon, bah voilà, il y a. La question des influences, c'est toujours une question extrêmement difficile à.
Puis la question du féminisme aussi, enfin, on se le disait, c'est vrai qu'Aude et moi, on fait partie de cette génération d'auteurs. On nous bassine depuis des années, vous êtes une femme, vous faites de la BD, est-ce que c'est difficile d'être une femme, on fait de la BD, etc. Donc c'est une question qui nous pose problème, c'est un sujet qui nous pose problème, et en même temps, c'est aussi un sujet intéressant. Et quand on voit ce que fait Bretéché, elle le dit, le féminisme l'emmerde, sauf que ses planches sont quand même féministes et intéressantes pour ça. Donc c'est toujours une question un peu difficile, mais... Hein, Aude ?
Oui. Bah, moi, je ne sais pas quoi en dire. En fait, c'est une question qu'on me pose, mais que je ne me pose pas.
Oui, on ne se pose pas la question quand on est une nana et qu'on dessine. Ça, c'est évident.
Mais enfin, en tout cas, ce qui me venait à chaque fois qu'on évoquait le fait qu'elle ne soit pas militante, mais elle n'a pas besoin. Elle est ce qu'elle est. Elle est une femme qui parle, qui fait un truc
mais
génial.
Elle le dit d'ailleurs. Quand elle
et on en reparlera dans 100 ans. Enfin, on s'en fout.
Elle le dit, quand on est une femme, on est sainement féministe. Parce qu'on est une femme, on n'a pas besoin de le. Voilà, de le clamer, le dire, on l'est, donc après, on est, voilà. Elle le dit mieux que ça, je crois.
Et aussi, c'est pas la même chose féministe et féminin, parce que c'était aussi une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Pour moi, féministe, c'est un positionnement politique et que peut avoir un homme aussi. Par contre, féminin, qu'est-ce que c'est exactement que cette construction-là ? D'où ça vient ? À quoi ça fait référence ? Qu'est-ce qu'on met en face ? Quel adjectif on y accole ? Et je pense que ça peut être gênant quand on le déconstruit pas. Donc c'est pas non plus, il me semble que c'est pas le, voilà, on n'est pas dans les mêmes eaux en parlant de féminin ou en parlant de féminisme.
C'est pour ça que je parlais de féminin. Enfin, ouais.
Mais il me semble que là on a parlé de féminisme et pas.
Oui, non mais. Pas en fait, de. C'est pas, plus par rapport à ce que vous avez montré des travaux. Enfin, parce qu'on est resté sur le travail de Aude et de.
Catherine.
Gérard. C'est ça. Mais en fait, c'était. Je pense qu'on aurait pu montrer plus d'autres travaux. Enfin, je sais. Enfin.
Montrer quoi
d'autres travaux, en fait. Oui, tout à fait, oui.
Je sais pas pourquoi vous avez choisi
Non mais enfin. Non mais c'est, parce que du coup le réhéritage est assez réduit
que,
en fait.
D'autres personnes que Catherine et Odo.
Non mais moi je me sentais un peu, enfin c'était compliqué, je faisais des images parce que je vois pas le rapport. Enfin puis je me sens, puis je trouve ça, enfin je sais pas moi, c'est intimidant. Enfin et puis pourquoi, voilà. Mais bon c'est, je sais pas moi. C'est
alors
comme ça.
On l'a pas fait parce que c'est pas poli. On n'invite pas des gens pour montrer des images d'autres gens.
Ah oui.
Ouais, et on se concentre sur eux quand on les a sous la main. Voilà.
C'est, en même temps. Bon.
Mais non, mais vous avez tout à fait raison dans le sens où. Et on ambitionnait quand même de pouvoir citer un certain nombre d'auteurs, hommes ou femmes d'ailleurs, qui avaient été influencés aussi par Claire Bretéché. Mais on a une heure et quart, on a trois places, on fait venir trois personnes et on parle d'elle essentiellement parce que c'est plus poli.
Comment je m'appelle ?
Hein ? Et comment elle s'appelle, monsieur ? Vous avez retenu ? Catherine. Alors maintenant, vous allez travailler un petit peu et puis vous revenez. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous. Et voilà, je pense que ça peut s'arrêter là. Si... À moins qu'il y ait une autre question. Alors, tout à fait. Les festivités continuent dehors puisque Catherine Meurice et Aude Picot et Fabienne Dumont vont avoir la possibilité de dédicacer leurs ouvrages à ceux qui le souhaiteraient.
Mais merci.